France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Dubai Gate. En janvier 2010, à Dubaï, dans une morgue de cet émirat du Golfe Persique, on découvre le corps d'un certain Mahmoud Al-Marbou, une des dépouilles qui cache de nombreux mystères. En tout cas pour les responsables du Hamas, la mort de ce Palestinien de 49 ans, logisticien en chef de l'organisation terroriste, n'est pas due au hasard. Durant plusieurs semaines, les enquêteurs de la police dubaïote vont se plonger dans les milliers d'heures d'images captées par les caméras de vidéosurveillance de la ville et vont éplucher les registres de douane. Leur conclusion est sans appel, Mahmoud Al-Marbou a bien été assassiné. Et selon eux, c'est le Mossad, le très réputé service de renseignement israélien, qui est derrière cette opération clandestine. Notre invité aujourd'hui, Yvonique De Noël, historien, spécialiste du renseignement. Il est l'auteur du livre « Les guerres secrètes du Mossad ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Kuhn.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Vendredi 22 janvier 2010, Émirat de Dubaï. Il est encore tôt lorsque le lieutenant-général Khalfan Tamim franchit la porte de l'imposant siège de la police de Dubaï. Comme tous les jours, le chef de la police salue les agents prêts à partir en patrouille à bord des dizaines de voitures de luxe qui composent le parc automobile de l'émirat. À peine installé sur son fauteuil, le téléphone sonne. Son assistant lui explique qu'un membre du Hamas, basé en Syrie, cherche à le joindre. Le chef de la police prend l'appel. Sans détour, son interlocuteur lui explique la situation. Voilà, le corps de Mahmoud Al-Marbou, un haut responsable de l'organisation palestinienne, a été identifié la veille dans une morgue de Dubaï. Pour le responsable palestinien, il ne fait aucun doute que des agents secrets israéliens sont derrière ce que ce membre du Hamas considère comme un assassinat ciblé, une opération spéciale genre service secret. Combiné à l'oreille, Khalfan Tamim fulmine. Vous tous, vos comptes en banque, vos armes et vos putains de faux passeports, dégagez de mon pays. Connu pour ses positions modérées, notamment vis-à-vis de l'État hébreu, Tamim s'est donné pour mission de vider la ville de tous ceux qui tentent d'y conduire des opérations illicites et clandestines. Le responsable du Hamas, qui espérait sûrement une réaction plus conciliante de la part du chef de la police d'un pays ami, tente alors de raisonner son interlocuteur. Après quelques minutes d'échange, le lieutenant-général se calme et promet de se pencher sur la question. Même s'il en veut aux Palestiniens de conduire leurs affaires ici, il doit absolument vérifier si des agents du Mossad ont effectivement commis un assassinat sur le sol de son pays. Dont acte. Il charge immédiatement une équipe d'enquêter sur cette affaire. Moins d'un mois plus tard, Khalfan Tamim convoque la presse internationale et diffuse une information qui va faire le tour du monde.
La presse internationale parle désormais d'un Dubai Gate après l'assassinat d'un responsable du Hamas dans un hôtel de Dubaï. Assassinat attribué au Mossad, y compris par la presse israélienne. Mais les autorités du pays, elles, rejettent catégoriquement ces accusations et les demandes d'explications formulées par plusieurs pays étrangers, malgré les images du commando diffusées dans le monde entier. Frédéric Barrère, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors pour les autorités israéliennes, c'est toujours circulé, il n'y a rien à voir.
Voilà, montrer les preuves, les responsables israéliens expliquent sur un ton ironique que ce n'est pas parce qu'on voit des gens avec des perruques et des raquettes de tennis sur les vidéos de surveillance que c'est une opération du Mossad. On ne sait pas ce qui s'est passé et surtout, selon un responsable israélien, il n'y a pas de preuve, dit-il, que le commandant du Hamas ait été assassiné. Ce qui est certain, c'est qu'Israël n'avouera jamais et les membres du commando sont cachés. Interpol ne les retrouvera sans doute jamais. Alors Israël fait le gros dos en attendant que ça passe.
Si le chef de la police de l'émirat de Dubaï est aussi catégorique, c'est non seulement parce qu'il dispose de preuves, mais aussi parce qu'il sait parfaitement que le service de renseignement de l'État hébreu est un spécialiste de ce genre d'action clandestine.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Lorsqu'en mai 1948, l'Assemblée générale des Nations unies vote en faveur de la création d'Israël, les responsables du jeune État font face à une situation extrêmement tendue. Dès le lendemain du vote, en effet, une coalition des pays arabes déclenche la première guerre contre l'État hébreu. Conscient des lacunes en matière de renseignement, pilier essentiel à toute grande puissance, le Premier ministre David Ben-Gourion décide rapidement de la création de trois services. L'Aman d'abord, chargé du renseignement militaire, le Shin Bet ensuite, qui veille à la sécurité intérieure, puis le Mossad. Ce service de renseignement extérieur, dont le nom signifie « institut » en hébreu, voit le jour en décembre 1949. Sa devise est « Par la ruse, tu mèneras la guerre ». Les termes sont posés. À l'inverse des autres composants du renseignement, le Mossad est placé directement sous l'autorité du Premier ministre et n'a pas à répondre aux lois constitutionnelles israéliennes. Ses missions sont fixées dès sa création: renseignement, opérations spéciales, sabotage et lutte antiterroriste, tout cela hors du territoire national. Ainsi, en moins de 10 ans, les agents du Mossad participent activement au développement d'un puissant réseau de renseignement capable d'agir partout à travers le monde. C'est en 1960 que, pour la première fois, l'Institut va réaliser l'opération d'envergure. En mai, une équipe se trouve en Argentine et parvient à capturer un criminel nazi des plus importants, Adolf Eichmann.
Voici maintenant une information qui nous vient d'Israël. En effet, la police israélienne vient de mettre la main sur l'un des plus grands criminels de la dernière guerre, Eichmann, qui est à l'origine de la mort de 5 millions de juifs. Écoutez ce que nous dit de Jérusalem André Chemama.
Les circonstances de la capture d'Adolf Eichmann, responsable du massacre de 6 millions de juifs, sont encore mystérieuses et il semble que l'on ne saura pas de sitôt dans quelles conditions ni en quel lieu les services de sécurité israéliens ont pu s'emparer de lui. Mais pour l'instant, Adolf Eichmann s'est vu notifier par un juge israélien un mandat d'arrêt pour une durée de 14 jours.
Avec cette opération nouveau vol qui permet de juger et condamner l'ingénieur de la solution finale, le Mossad gagne en notoriété et surtout en prestige. Désormais, plus personne n'ignore la capacité de ses agents à atteindre n'importe quelle cible sur la planète. Et les années qui suivent vont continuer de démontrer cette force de frappe hors du commun. À partir de la décennie 70, ce sont les décideurs palestiniens de la sanglante prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich qui vont faire les frais des Kidonim, les agents opérationnels du Mossad. Traqués partout en Europe, ceux qu'Israël considère comme des terroristes meurent dans une ambitieuse campagne d'assassinat ciblé. Attentats à la bombe ou à la voiture piégée, élimination en pleine rue des grandes capitales européennes, rien n'arrête les agents israéliens. L'opération, baptisée Colère de Dieu, permet à l'Institut de rayer une dizaine de noms d'une liste établie en 1972, en septembre pour être précis. C'est la fameuse liste Golda. Elle permet aussi de confirmer le statut de l'agence, l'une des plus efficaces de la planète. Mais c'est aussi durant cette vaste opération que le Mossad connaît son premier grand revers. L'assassinat d'un ressortissant marocain en Norvège, confondu avec l'un des cerveaux de l'attentat de Munich. Un fait qui provoque un scandale international et qui expose, pour la première fois, les agents israéliens. Le Mossad est alors contraint de mettre un frein à ses activités clandestines. Si les affaires reprennent peu à peu dans les années qui suivent, le service de renseignement extérieur israélien est sur le déclin et il va connaître d'autres échecs. Le 25 septembre 1997, deux agents sont arrêtés en Jordanie alors qu'ils viennent tout juste de vaporiser un poison dans l'oreille d'un haut responsable palestinien. Encore une fois, l'affaire est étalée sur la place publique et les autorités israéliennes sont contraintes de négocier la libération de deux agents contre l'antidote du poison et la libération d'un important chef spirituel palestinien. Au tournant du nouveau millénaire, le Premier ministre Ariel Sharon décide de nommer un homme à poigne à la tête du Mossad. Meir Dagon récupère un service de renseignement en plein doute. Et sa mission est claire, redresser la barre. Très vite, il repense le fonctionnement de l'Institut. Il nomme des hommes de confiance au poste clé et il se débarrasse de tous ceux qui ne partagent pas sa vision de la mission. Une mission qui, au début des années 2000, s'oriente vers une nouvelle cible, le Hamas. Émanation des frères musulmans en Palestine, Ce mouvement qualifié de terroriste par la plupart des capitales occidentales s'impose comme la principale force d'opposition au Fatah de Yasser Arafat. Fondé par le cheikh Ahmed Yassine, le Hamas déstabilise un territoire déjà au bord du chaos. Et en 2006, il remporte les élections législatives palestiniennes. Mais face au refus des vieux cadres de l'OLP et du Fatah de reconnaître la défaite, les territoires palestiniens s'embrasent.
Des rafales de Kalachnikov tirées en l'air pour disperser les manifestants du Hamas. Aujourd'hui, vendredi, jour de la grande prière pour les musulmans. La tension est encore montée d'un cran. Ce matin, à Gaza, les funérailles d'un garde du corps abattu cette nuit dans une embuscade contre le Premier ministre palestinien. Il y a 4 jours, ce sont les enfants d'un dirigeant d'une autre faction, le Fatah, qui ont été assassinés. La vendetta, les règlements de compte se succèdent entre les deux grandes factions palestiniennes. Le chaos s'installe à Gaza.
Au terme d'une guerre fratricide qui fait plus d'une centaine de morts, le Hamas prend le contrôle d'une partie de la Cisjordanie et de la totalité de la bande de Gaza. Gaza, ce petit territoire frontalier de l'Égypte, long de 12 km et large de seulement 6, devient le centre opérationnel de l'organisation. De là, les combattants palestiniens font pleuvoir des milliers de roquettes sur les territoires israéliens adjacents. Malgré les bombardements réguliers de l'aviation israélienne sur les rampes de lancement de roquettes, l'organisation palestinienne ne relâche pas son effort. Financé par la Syrie et l'Iran, le Hamas est désormais la principale menace qui pèse sur l'État hébreu. Fidèle à sa ligne de conduite, le Mossad fait des responsables de l'organisation palestinienne des cibles, et surtout des cibles prioritaires. Après avoir éliminé son fondateur, Ahmed Yassine, et son successeur à la tête du mouvement, les responsables de l'Institut dressent une liste des personnalités à abattre. Encore une fois. Et toutes se savent menacées, et nombre d'entre elles s'exilent en Syrie, d'où elles coordonnent les actions menées depuis la bande de Gaza. Parmi ses cibles se trouve Mahmoud Al-Marbou. Al-Marbou est une vieille connaissance des services secrets israéliens. Il est dans leur ligne de mire depuis le mois de février 89. Alors membre actif des réseaux du Hamas, il met sur pied un plan pour enlever et éliminer des soldats de Tsahal. À 2 reprises, et avec l'aide d'un complice, il enlève et assassine 2 jeunes militaires en permission. Une affaire qui fait alors la une de la presse locale et qui lui vaut son inscription sur la liste noire du Mossad. Quelques semaines plus tard, il quitte la bande de Gaza, direction l'Égypte, puis la Syrie. Au printemps 2009, toujours activement recherché par les services israéliens, il revient sur cette affaire dans une interview aux médias Qatari Al Jazeera.
Nous étions déguisés, habillés comme des religieux juifs, des rabbins. Le 16 février 1989, nous étions près d'un rond-point lorsqu'une voiture déposa 2 soldats. L'un d'eux, Avis Asportas, est monté dans la voiture sur la banquette arrière. J'étais au volant. Après quelques minutes, nous nous sommes fait signe avec mon complice. Il a ouvert le feu. 2 balles dans la tête et 1 dans la poitrine. J'ai entendu le dernier souffle du soldat. Il est mort après le premier coup. Pour Israël, j'ai les mains tachées de sang. Ils ont tenté de m'assassiner au moins 3 fois. Mais je suis très prudent. Seul Dieu détermine la date de notre mort. La volonté de Dieu nous rend plus forts. Et j'espère mourir en martyr.
Les années passent et Mahmoud Al-Marbou devient un cadre important du Hamas. Oh, il n'est ni responsable politique ni une figure religieuse, non. Son travail à lui, c'est la logistique. Il est l'armurier principal du mouvement palestinien. Et au fil des ans, il parvient à tisser d'importants réseaux auprès des mécènes du Hamas. En Syrie, où il réside, mais aussi en Iran, principal soutien de l'organisation. Car les gardiens de la révolution apportent un financement important, mais sont aussi les principaux fournisseurs d'armes utilisées dans la bande de Gaza. Logisticien hors pair, Mahmoud Al-Marbou organise régulièrement le transfert d'armes de l'Iran vers Gaza. D'abord par la mer, depuis le Soudan, puis grâce à un important réseau de tunnels situé dans le désert du Sinaï, l'armurier du Hamas parvient à faire entrer armes à feu et roquettes dans les territoires palestiniens. En janvier 2009, un important convoi du réseau d'Al Marbou est la cible d'un raid israélien. Si l'aviation israélienne parvient à détruire une partie de la précieuse cargaison, Al Marbou, lui, est toujours en vie. Et cela fait 20 ans qu'il échappe au service israélien. Ça ne peut plus durer. Pour Meir Dagan, qui en est à son deuxième mandat à la tête du Mossad, une opération doit être menée contre lui, absolument. Le Premier ministre Ehud Olmert valide alors une autorisation d'exécution de l'individu. Son successeur, Benjamin Netanyahou, la confirme à son arrivée au pouvoir. Et Mahmoud Al-Marbou est une cible difficile à atteindre. Prudent, il ne voyage jamais dans un pays ami d'Israël. Ses seules destinations sont l'Iran, la Chine ou le Soudan. Que des pays où il est impossible d'imaginer une échappatoire pour des agents en mission. Mais une autre destination habituelle du logisticien du Hamas intéresse le Mossad. Aujourd'hui, le Dubai Gate, quand le Mossad dérape.
Dubaï vous attend. Goûtez au raffinement. Dépassez l'ordinaire. Voyagez dans le temps. Dansez jusqu'au bout de la nuit. Célébrez chaque journée. Envolez-vous vers Dubaï. Le monde n'attend que vous. Affaires sensibles sur France Inter.
Sans être le paradis, parmi les destinations habituelles du logisticien du Hamas, Dubaï présente, disons, certains avantages. Certes, ce n'est pas un pays ami d'Israël, mais à l'inverse de l'Iran ou du Soudan, c'est un centre d'affaires international. Donc, chaque jour, des milliers de personnes, touristes et businessmen, se croisent dans l'aéroport de l'Émirat. Ce qui est une couverture idéale pour des agents en mission. Autre avantage, le Mossad ne redoute pas vraiment les services de renseignement émiratis, peu habitués finalement à traiter d'affaires d'espionnage. Sa mission est donc apparemment sans risque. C'est du moins ce que pense Meir Dagan. Dans le courant de l'année 2009, le Mossad parvient à hacker l'ordinateur personnel de Al Marbou. ils ont désormais, les agents israéliens, accès à son emploi du temps. À plusieurs reprises, des agents sont envoyés dans l'émirat pour observer ses déplacements et relever ses habitudes. En novembre 2009, et après plusieurs mois d'observation, Meir Dagan donne son feu vert à l'exécution de cette cible prioritaire, rappelons-le, dont le nom de code est « écran plasma ». Plusieurs agents du groupe Césaré, l'unité d'élite du Kidon, le service d'action du Mossad, sont envoyés sur place. En son absence, ils s'introduisent dans sa chambre et versent du poison dans une boisson. Mais à cause d'un mauvais dosage, écran plasma ne subit qu'un court évanouissement. Ausculté par un médecin à son retour à Damas, l'hypothèse d'une tentative d'empoisonnement n'est même pas évoquée, non. Et on lui prescrit du repos en raison d'une possible mononucléose. Al-Marboun n'est pas mort, mais au moins il ne se doute pas que le Mossad est sur sa trace. Raison de plus pour ne rien lâcher. Alors, Meir Dagan est catégorique, la prochaine tentative doit être la bonne. Quelques semaines plus tard, le 15 janvier 2010, les agents de surveillance affectés au dossier écran plasma préviennent leurs responsables. Un nouveau voyage de la cible est prévu dans l'émirat d'ici quelques jours. Meir Dagan convoque les principaux responsables de l'Institut pour une réunion d'urgence. Dans son livre « Lève-toi et tue le premier », le journaliste Ronen Bergman raconte cette réunion où la précipitation semble dominer.
Une objection fut soulevée lors de la réunion qui se tint le 15 janvier à côté du bureau du directeur. Le département de la documentation aurait du mal à préparer des faux passeports neufs pour l'équipe entière. Il y avait plus de 20 personnes qui se rendaient à Dubaï. Et certains entreraient dans le même pays, avec la même identité et la même couverture, pour la troisième fois en à peine 6 mois. Dans des temps pas si lointains, l'opération aurait été annulée pour ce seul motif. Mais Meir Dagan et son adjoint décidèrent de courir le risque.
Malgré ses réserves, l'opération est validée. Et le Mossad ne lésine pas sur les moyens. Dans une mission de ce type, où il est impossible d'anticiper les mouvements de la cible, c'est elle finalement qui dicte comment et quand elle sera tuée. Alors ce sont 27 membres de l'unité Césaré qui sont mobilisés, la quasi-totalité du service action. Tous sont munis de passeports occidentaux, britanniques, français, italiens, irlandais ou australiens, pour ne pas éveiller les soupçons, bien sûr. Les premiers membres de l'équipe arrivent à Dubaï dans la nuit du 17 au 18 janvier. Les autres débarquent au compte-gouttes en provenance d'aéroports européens dans les heures qui suivent. Peter Elvinger, le commandant de la mission, muni d'un passeport français, lui, s'installe dans l'un des hôtels déjà visités par Al-Marboun. Les autres déploient le dispositif de surveillance à tous les points stratégiques établis durant la préparation. Pour communiquer entre eux, les membres de l'équipe contactent un numéro basé en Autriche. De là, un serveur les renvoie vers le centre de commandement à Tel Aviv ou directement sur le portable des autres membres. À 15h35, le 19 janvier, deux agents en planque dans le hall de l'aéroport confirment l'arrivée de la cible. Deux autres Kidolim prennent le relais et le filent jusqu'à l'hôtel Al-Bustan Rotana, un luxueux palace situé non loin de l'aéroport. Là, dans le hall, deux agents habillés en talisman, raquette à la main, attendent son arrivée et l'observent récupérer la clé de sa chambre à l'accueil. Ils le suivent dans l'ascenseur et descendent comme lui au deuxième étage. Mahmoud Al-Marboun se dirige vers la chambre 230. L'information est communiquée et dans les minutes qui suivent, Peter Elvinger contacte l'hôtel pour réserver la chambre 237, celle qui se situe juste en face. Immédiatement après, il réserve un vol pour Munich, le soir même. À 16h20, écran plasma quitte l'hôtel et se rend dans un centre commercial pour un rendez-vous avec un contact iranien. Plusieurs équipes se relaient pour le suivre. Malgré ses manœuvres de contre-filature, Al-Marboun ne remarque rien. Dans les minutes qui suivent, Peter Elvinger se présente à l'accueil et récupère la clé de la chambre 237, celle qui est en face de celle de la cible. Sans dire un mot, il la glisse dans la main d'un autre agent, la clé, un agent en planque, dans le hall, puis il disparaît. Un centre opérationnel est alors établi dans la chambre qui fait face à celle de la cible. Et à 22h, les équipes de filature donnent l'alerte, parce que la cible se dirige vers l'hôtel, bref, elle arrive. Au même instant, trois agents sortent de la chambre 237. Deux d'entre eux se positionnent dans le couloir et distraient un touriste qui passe par là. À l'aide d'un boîtier électronique, le troisième pirate la serrure de la chambre 230. Une fois la porte ouverte, trois exécutants y entrent pour s'y cacher. Ils sont prêts à passer à l'action. Quelques minutes plus tard, Mahmoud Al-Marbou ouvre la porte de la chambre 230, la sienne. Dans son livre, Ronen Bergman raconte la suite des événements.
Al-Marbou tenta de s'enfuir dans le couloir. Mais deux paires de bras solides la grippèrent. Un troisième homme lui plaqua une main sur la bouche, et avec l'autre, lui appuya dans le cou un instrument qui injecte un produit, sans ouvrir la peau. L'instrument était chargé d'un anesthésiant connu dans le commerce sous le nom de scoline. Il entraîne une paralysie et comme il empêche les muscles mobilisés pour la respiration de fonctionner, asphyxie la victime. Les hommes maintinrent leur prise, jusqu'à ce qu'Al-Marbou cesse de se débattre. De l'écume se forma aux commissures de ses lèvres. Il émit un gargouillement.
Après s'être assuré de la mort de la cible, les trois agents lui retirent ses chaussures qu'il place au pied du lit. Il lui ôte ses vêtements qu'il plie soigneusement avant de les ranger dans l'armoire et glisse le corps sous les draps. 20 minutes plus tard, il ressort de la chambre. Ils parviennent à la verrouiller de l'intérieur en glissant la petite chaîne de sécurité et placent l'écriteau « Do not disturb » sur la poignée de la chambre. Deux coups discrets sont frappés sur la porte de la chambre 237. Mission accomplie. Moins de 4 heures plus tard, la totalité de l'équipe a déjà quitté Dubaï. Le corps de l'armurier du Hamas est découvert le lendemain par une femme de chambre. Lorsque la police se rend sur place, tout porte à croire que la mort est naturelle. Effectivement, affaire soigneusement rangée, pas de traces d'effraction ni de lutte. Et l'enquête ne va pas plus loin. Un homme d'affaires d'âge moyen retrouvé décédé dans une chambre d'hôtel, c'est presque banal. À Damas, en revanche, les responsables du groupe palestinien s'inquiètent. Le séjour de Mahmoud Al-Marbou ne devait durer que quelques jours et ils sont toujours sans nouvelles. Le jeudi 21 janvier, un émissaire local est missionné pour le retrouver. Il ne lui faut que quelques heures pour revenir sur sa trace dans une morgue de la ville. Après avoir formellement identifié le corps, il fait son rapport. Dès le lendemain matin, un haut responsable du Hamas contacte Ralfan Tamim, le chef de la police locale. Il lui explique que Mahmoud Al-Marbou est entré sur le territoire avec un authentique passeport palestinien, mais sous un nom d'emprunt. Et il en est persuadé. La mort du logisticien n'a rien de naturel, non, c'est le Mossad qui se cache derrière cette opération. Le chef de la police, aux états de service irréprochables, est loin de se montrer coopérant. Sa mission est de faire de l'Émirat un lieu sûr et accueillant. Alors savoir que le Hamas y mène de sombres affaires ne l'enchante pas. Et puis pour ne rien arranger, Ralfan Tamim s'est plusieurs fois montré ouvert quant aux relations de son pays avec l'État hébreu. Dans une interview donnée quelques années plus tard aux médias Al Jazeera, il affirme même être prêt à coopérer avec les autorités israéliennes dans la lutte antiterroriste.
Soyez-en sûr, si j'apprends qu'une bombe doit exploser, même dans une rue en Israël, je prendrai les mêmes mesures pour protéger la sécurité des personnes juives que n'importe qui sur les terres islamiques. Si quelqu'un prévoit de tuer des personnes innocentes, des gens ordinaires, alors que Dieu en soit témoin, si cela doit se produire au cœur de Tel Aviv et que des innocents sont ciblés, alors c'est de mon devoir de transmettre l'information même à Israël, avec qui nous n'avons pas de relation. Dans cette situation, j'enfreins les règles pour sauver des vies, même s'il s'agit de juifs.
Mais ces positions progressistes, rares pour un haut responsable d'un émirat du Golfe, ne l'empêchent pas de faire son travail. L'information de son interlocuteur doit être vérifiée. Malgré une autopsie non concluante, les enquêteurs débutent leur travail. La première piste explorée est celle des passeports. En comparant les identités des ressortissants étrangers arrivés le même jour que Al-Marbou, la police parvient à faire ressortir une dizaine de noms. Presque à chaque fois, ce sont des personnes présentes dans l'émirat au même moment que le cadre du Hamas. Une erreur grossière pour un service aussi réputé que le Mossad, et ce n'est pas la seule. Les enquêteurs fouillent également les fichiers téléphoniques. Et très vite, ils isolent le numéro autrichien, celui qui a servi de relais aux membres du commando. Ce sont ensuite les bases de données des hôtels de la ville qui sont exploitées. Et là encore, de nombreux indices les mettent sur la piste des agents du Mossad. Les règlements en cash et les paiements via des cartes prépayées de la société Pioneer, utilisées par la majorité des agents, les trahissent. La société, bien qu'enregistrée aux États-Unis, a été fondée quelques années plus tôt par un ancien agent du Mossad. Ce sont ensuite les archives des milliers de caméras de surveillance de la ville qui sont décortiquées. Et là encore, les enquêteurs tombent des nues en découvrant les manœuvres souvent grossières de cette équipe supposément d'élite. Des tennismen raquettes à la main, sans housse, qui attendent plusieurs heures dans le hall d'un hôtel, en l'occurrence l'hôtel Al-Bustan Rotana. Un homme qui entre chauve dans les toilettes et qui ressort avec une perruque mal positionnée. Une femme blonde sur une image et brune sur une autre. Autant d'incohérences flagrantes qui confirment la thèse d'un assassinat ciblé. À prendre les services émiratis pour des amateurs, les agents de Césarée se retrouvent gros jour comme devant. En quelques semaines, les policiers réussissent à retrouver la totalité des images de l'opération. Bien. Mais que faire ? Les Émirats Arabes Unis n'entretiennent pour l'heure aucune relation diplomatique avec Israël, on l'a dit. Ralpham Tamim sait alors que sa meilleure arme, c'est l'arme médiatique. Le 18 février 2010, moins d'un mois après l'assassinat de l'armurier du Hamas, les médias sont invités à une retentissante conférence de presse. La nouvelle va faire le tour du monde. Et l'État hébreu se retrouve sous le feu des critiques.
C'est une histoire digne des meilleurs romans d'espionnage. Le 20 janvier dernier, un cadre du Hamas, le mouvement islamiste palestinien, a été assassiné dans un grand hôtel de Dubaï. Peu à peu, les regards se sont tournés vers le Mossad, les mythiques services secrets israéliens, qui auraient utilisé pour commettre ce meurtre de faux passeports anglais, irlandais et aussi français.
Il s'agit dans cette affaire de copies de passeports de citoyens israéliens ayant une double nationalité. La pression internationale s'accentue donc sur l'État hébreu qui nie toute implication. Et l'enquête s'étend maintenant aux États-Unis. Les autorités des Émirats Arabes Unis affirment que les tueurs présumés ont aussi utilisé de faux passeports pour ouvrir des comptes dans des banques américaines afin d'utiliser des cartes de crédit. À la demande de Dubaï, Interpol a placé les 11 suspects de ce meurtre sur la liste des personnes les plus recherchées, émettant des notices rouges, le niveau d'alerte le plus élevé.
Si durant sa conférence de presse, le chef de la police de Dubaï révèle l'existence d'une opération clandestine sur le sol de l'Émirat, il en donne aussi les détails. Et il expose aux médias du monde entier les visages d'une grande partie de l'équipe Césarée, l'unité d'élite de l'un des services de renseignement les plus redoutés de la planète. Autrement dit, c'est une catastrophe pour le Mossad, qui doit suspendre toutes les activités de ses agents les plus entraînés. Mais c'est également un désastre diplomatique pour l'État hébreu. Alors qu'Israël s'était officiellement engagé à ne jamais faire usage de passeports de citoyens étrangers, ses services ont pris la main dans le sac. La police dubaïote a semé une sacrée pagaille. Si la France se montre relativement impassible, au Royaume-Uni comme en Allemagne, les conséquences sont lourdes. Les services de renseignement de deux pays suspendent immédiatement les relations avec leurs homologues du Mossad, privant Israël de contacts précieux. Bon, l'opération en elle-même est un succès stratégique. Après tout, elle a permis de neutraliser l'un des principaux pourvoyeurs d'armes du Hamas. Mais ses conditions d'exécution sont hautement contestables. Parce que c'est tous les services secrets du monde s'accordent sur le principe du droit de déroger aux règles. Aucun ne doit se faire prendre. À la tête du Mossad depuis plus de 8 ans, Mirdagan est considéré comme le principal responsable de cet échec retentissant. Coupable, selon les observateurs, d'avoir façonné un service à son image. Il n'a jamais voulu écouter ceux qui auraient pu l'avertir des dangers d'une opération si mal préparée. Le directeur du Mossad, dont les relations avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou sont plus que froides, est limogé quelques semaines plus tard. Malgré des succès importants, comme l'élimination de nombreux responsables du programme nucléaire iranien, celui qui a réussi à remettre l'Institut sur le devant de la scène reste celui qui a conduit le Mossad et Israël au désastre diplomatique. Et l'histoire a tendance à ne retenir que ça. Aujourd'hui, Dubai Gate, ou quand le Mossad dérape. On en parle avec notre invité Yvonique de Noël. Bonjour.
Bonjour.
Nous vous avons déjà reçu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste du renseignement et auteur du livre « Les guerres secrètes du Mossad ». Alors, on a tellement considéré le Mossad dans les années 60, 70 et 80 comme le service de renseignement mythique, hein, une espèce de modèle. Comment une agence comme celle-là, avec cette réputation, peut-elle se relever d'un événement comme celui-ci, l'affaire de Dubaï ?
On se relève toujours, en réalité. C'est-à-dire que le Mossad, effectivement, a une réputation de très grande efficacité. C'est également le service qui, sans doute, conduit le plus d'opérations homicides. C'est la loi des grands nombres. Sur peut-être une centaine d'opérations, il est normal, ou en tout cas fréquent, qu'il y en ait une qui échoue. Et là, c'est le cas. Alors, ça intervient 13 ans après un autre désastre, celui dont vous avez parlé, la tentative d'assassinat de Khaled Meshal en Jordanie, qui également a causé un grand scandale international, un vif embarras avec la Jordanie. Et bien dans ces cas-là, tout simplement...
Les Marocains, quand il se trompe dans la liste Golda et qu'il tue un Marocain.
Alors ça, c'est l'affaire de l'île Hammer, effectivement.
Ah oui, Norvège,
donc
ouais.
Le schéma est un peu toujours le même, c'est-à-dire qu'on coupe des têtes... On change des responsables et puis on repart sur une équipe renouvelée.
Donc ça veut dire que ce n'est pas de nature à altérer sérieusement la réputation du Mossad ? Notamment dans les pays ennemis.
Alors là, pas du tout. En tout cas, dans les pays arabes, le Mossad a une réputation d'invincibilité, de toute puissance, qui fait qu'en fait, on le surestime plutôt qu'on le sous-estime. Tous les professionnels du renseignement, quel que soit leur pays, savent très bien que c'est normal, entre guillemets, d'avoir de temps en temps un échec.
Alors, dans un premier temps, la police parle de 11 agents israéliens identifiés, mais ce sont, je crois, hein, en réalité, une vingtaine de kidonim qui ont participé à la mission, donc tous n'ont pas été repérés.
Alors, on a les photos, les images de tous ceux qui étaient présents. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est un peu ballot, c'est qu'ils ont tous utilisé ce système de cartes prépayées. Ils ont tous appelé le même numéro en Autriche.
Des tennismen, enfin déguisés en tennismen qui attendent des heures dans un hôtel, c'est pas crédible.
Et puis, ils s'échangent des SMS entre eux. Ils font quand même un certain nombre de choses assez surprenantes pour des professionnels de ce niveau-là. Alors, peut-être qu'effectivement, ils ont un peu pris de haut les services de Dubaï en considérant qu'ils étaient tellement nuls que de toute façon, ce n'était pas la peine d'en faire trop.
Votre présence est précieuse parce qu'elle va nous permettre de comprendre ce que nous avons évoqué en une phrase. La question des passeports européens, l'engagement d'Israël de ne pas les utiliser, quel est l'enjeu ?
Alors effectivement, au cours de missions antérieures, Israël a utilisé des passeports de pays européens et du Canada et des États-Unis. Bon, tout simplement, la raison, on peut la comprendre, c'est-à-dire qu'avec un passeport israélien, on va nulle part dans les pays arabes, on est immédiatement repéré. Donc, c'est problématique. Alors derrière, il faut effectivement des passeports d'autres pays. Bon, autant la CIA peut émettre autant de faux passeports qu'elle veut, mais c'est pas le cas pour Israël. Donc, la solution, c'est soit de voler des passeports, soit de s'en faire prêter par leur vrai détenteur.
Des binationaux notamment.
Des binationaux, ouais. mais j'ai en tête par exemple le cas d'un agent du Mossad qui avait récupéré le passeport d'une jeune femme canadienne qui était sa petite amie du moment, juste parce que voilà, elle était amoureuse, il lui a dit « est-ce que je peux te prendre ton passeport ?» et puis voilà. L'important c'est que physiquement, le passeport, la photo du passeport corresponde ou puisse correspondre à la personne qui doit exécuter la mission. Et puis il y a l'imitation des passeports. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, on a des passeports biométriques, c'est quasiment impossible à imiter. Donc plus on progresse, plus ça devient compliqué. En plus, il y a des systèmes de reconnaissance vidéo maintenant dans tous les aéroports, avec parfois des systèmes de reconnaissance faciale en direct. Enfin, ça devient assez infernal en réalité, de mener des missions à l'étranger. Et donc on est sur cette mission, on est vraiment à un moment charnière, où effectivement, on voit que ça devient très très compliqué parce qu'en réalité, c'est effectivement le fait d'avoir utilisé les mêmes passeports plusieurs fois de suite qui les a perdus. Alors après, les pays réagissent différemment. Les Anglais avaient très fermement mis en garde le Mossad en leur disant « c'est terminé, vous devez vous engager à ne plus jamais ». Et la main sur le cœur, ils avaient dit « c'est promis, plus jamais on utilisera ». Donc déjà là, ça les met de très mauvaise humeur.
Les Allemands aussi.
Et puis il y a les Allemands. Alors là, ils ont fait quelque chose qui a beaucoup choqué les Allemands. Il y a une loi en Allemagne qui permet aux enfants et petits-enfants de morts ou de rescapés de la Shoah, qui en tout cas ont grandi à l'étranger, de récupérer quand ils le souhaitent la nationalité allemande. Et donc on a un avocat israélien qui arrive avec un client qui est sous une identité qui correspond bel et bien au petit-fils d'une victime de la Shoah et qui récupère un véritable passeport. Et il se trouve que c'était une usurpation d'identité, c'était un agent du Mossad. Donc les Allemands sont extrêmement choqués par ça et manque de bol, l'avocat en question à ce moment-là était en déplacement en Europe et les Allemands arrivent à le faire arrêter et donc il passe un sale quart d'heure et surtout les Allemands disent aux Israéliens, vous nous prenez pour des cons. Vous ne pouvez pas vous permettre n'importe quoi et en plus là vous jouez avec quelque chose qui n'est pas rien, qui est justement les réparations par rapport à la Shoah.
Et puis on peut comprendre effectivement les pays européens qui ne veulent pas qu'à travers l'utilisation de passeports et de faux passeports, on ait l'impression que leurs ressortissants viennent faire des crimes ailleurs que dans leur pays. Évidemment, ça se comprend. Alors comment ça se passe maintenant pour les agents du Mossad, puisqu'ils ne peuvent plus prendre des passeports européens et qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les pays arabes ?
Alors, en réalité, il y a des pays qui sont plus ou moins, intransigeants. Par exemple, sur la France, on leur dit c'est pas bien, on leur fait part de notre vive préoccupation. Mais en réalité, les liens de travail et d'échange de renseignements sont trop importants pour qu'on laisse tomber. Et puis, il y a des petits pays européens qui sont, un petit peu plus complaisants. Donc, on arrive toujours à se débrouiller, mais effectivement, c'est de plus en plus compliqué.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Yannick de Noël, historien, auteur des guerres secrètes du Mossad. On sait qu'en Israël, les piliers fondateurs de la création de ce pays, parmi les piliers fondateurs, il y a Tzahal, et bien le Mossad aussi. Donc quelles ont été les conséquences en Israël, d'abord d'un point de vue politique et d'un point de vue d'opinion?
Alors, en réalité, l'opinion israélienne, elle a applaudi. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas le problème, elle voit la mission réalisée. Donc, l'opinion publique était ravie. Et effectivement, petit effet inattendu, puisqu'on a beaucoup parlé de ces histoires de passeports, un certain nombre d'Israéliens binationaux, donc qui disposaient d'un autre passeport, ont spontanément proposé de les confier au Mossad. En interne, en réalité, il n'y a pas eu de... Il y a eu, évidemment, des débats à la radio, à la télé, pour critiquer Mir Dagan.
À la Knesset aussi peut-être quand même.
Mais au fond, il y a un relatif consensus, c'est-à-dire que la gauche n'a pas trop attaqué Netanyahou sur ce sujet-là. En revanche, effectivement, ça a eu des conséquences dans la mesure où il fallait quand même tirer les conséquences de ces erreurs dramatiques. Et donc, ça a notamment coûté sa tête au patron du Mossad.
Mir Dagan. Parlons de ce monsieur.
Alors, Mir Dagan, c'est avant tout un homme d'action. C'est un fils de rescapé polonais de la Shoah. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, a voulu être dans l'action. Il s'est illustré dans les forces spéciales où il s'est élevé très rapidement en impressionnant tous ses supérieurs par son courage, son audace, peut-être même son inconscience, je ne sais pas. Et il est devenu un protégé d'Ariel Sharon. Donc il a grimpé les échelons au sein de l'armée jusqu'à commander les forces israéliennes au sud Liban. Bon. Donc c'est Ariel Sharon qu'il nomme à la tête du Mossad à une période où le Mossad n'est pas très en forme. Il y a eu l'échec de 97 à Amman dont on a parlé. Il y a surtout le programme du nucléaire iranien qui se développe et le Mossad n'arrive pas à le contrer. Il y a un chef perçu comme trop intello, trop faible, Ephraim Halevi, qu'on voulait remplacer de toute façon. Ariel Sharon décide qu'il a besoin d'un homme à poigne et ce sera Mir Dagan qui donc prend le Mossad. Alors, il prend le Mossad et il fait le ménage.
Il le prend un peu à la hussarde.
Il le prend à la hussarde.
Un chef omnipotent qui n'accepte aucune critique, enfin, c'est ce qui nous revient.
Alors, il vire tous ceux qu'il estime trop contemplatifs, pas assez dans l'action. Il fait le ménage, il va voir sur le terrain, un par un, tous les agents du Mossad, ce que effectivement la précédente direction ne faisait pas, de manière à essayer de comprendre leur valeur ajoutée, est-ce que leurs sources sont des bonnes sources, enfin bref, il est là, il est un peu partout, il est très présent. Il décide même de faire passer les sources au détecteur de mensonges, histoire d'isoler ceux qui, par hasard, seraient des escrocs aux renseignements qui vendraient de fausses informations. Donc vraiment, il met le service en dessus-dessous et il lance rapidement des opérations avec un certain succès, et notamment une chose qui impressionne beaucoup, alors non plus Ariel Sharon puisqu'il a eu ses soucis de santé qu'on connaît, mais Ehud Olmert, son successeur, il arrive à déterminer que la Syrie a un programme nucléaire clandestin. Et cette opération-là va permettre à Israël de bombarder le site nucléaire et de réduire à néant le programme syrien. Mmh. Et cerise sur le gâteau, puisqu'il y avait beaucoup de réticence en disant on ne va peut-être pas ouvrir un conflit ouvert avec la Syrie, il dit non, mais on va faire ça sans communiquer et on va utiliser les Turcs pour faire passer à Assad le message si vous ne réagissez pas, nous on ne dira rien et donc vous ne serez pas humilié publiquement et du coup vous n'avez pas besoin de riposter militairement. C'était et ça marche.
C'était du temps de Bachir ou de son père ?
C'était déjà Bachar.
Bachar, ça.
Donc, il arrive par-dessus ça à éliminer un certain nombre de scientifiques iraniens qui... Bon, bref, il est auréolé d'une espèce de gloire. Et Ehud Olmert, qui ne connaît pas grand-chose au renseignement, est particulièrement impressionné par ses récits d'opérations très imagés. Et donc, on lui donne tout ce qu'il veut, augmentation de crédit, enfin, on ne lui refuse plus rien. Donc, effectivement, tout ça fonctionne jusqu'à la faute, et la faute qui relève sans doute d'une certaine inconscience, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus en face de lui, au sein du Mossad, de personnes qui pouvaient lui dire « Non mais attends, là c'est beaucoup trop dangereux, on ne peut pas faire comme ça ».
Peut-être aussi qu'on a estimé, ou sous-estimé, les services de police de Dubaï.
Alors sans doute, oui. Hein? Et on a sous-estimé aussi, ça c'est un des défauts de Mir Dagan, il n'est pas très technophile, et donc il ne voit pas arriver la montée de la vidéosurveillance, de l'usage de l'informatique. Lui c'est vraiment... un homme d'action à l'ancienne. Hein. Lui, c'est le terrain, le poignard, le flingue, et on y va. Il n'est pas trop dans les histoires de gadgets et de technologies. Et donc, effectivement...
À l'ancienne, quoi.
Voilà, c'est un homme d'action à l'ancienne.
Au moment de cette affaire, donc nous sommes en 2010, il n'existe pas de relation diplomatique entre les Émirats... Et Israël, est-ce que cette affaire a joué un rôle dans la normalisation des relations entre les deux pays, puisque maintenant les deux pays se parlent et vont même plus loin, hein ?
Alors, en surface, elle l'a un peu retardé. Souterrainement, en réalité, les deux pays, les différents Émirats et même l'Arabie Saoudite et Israël se parlaient. Oui. À travers les services secrets. Oui. C'est-à-dire, précisément à l'époque du prédécesseur de Mir Dagan, Ephraim Halevi, il y avait des négociations et des discussions souterraines, et précisément, le Mossad servait à ça. C'est-à-dire, on pouvait parler tout en affectant de ne pas parler avec Israël.
Et ça préparait le rapprochement.
Voilà, un rapprochement qui est à la fois basé sur des intérêts économiques et également diplomatiques, parce qu'il y a un ennemi
contre
commun. L'ennemi commun, c'est l'Iran, ouais, c'est les chiites.
Ben voilà. Bien, ce sera le dernier mot, Yvonique de Noël. Merci infiniment.
Merci
à
vous.
Je rappelle le titre de votre livre de référence, hein, Les guerres secrètes du Mossad. Merci.